Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse à l'autisme dans la foulée de la journée mondiale de sensibilisation consacrée chaque année au printemps à une maladie trop souvent méconnue. Depuis 10 ans, l'association Vaincre l'autisme mène en France une action contre l'autisme afin de défendre les droits des enfants qui en sont affectés. L'association a été créée et elle est présidée par Marmed Sajidi en réaction aux difficultés rencontrées par son fils Samy, mais surtout au manque de réponse adéquate apportée à un problème qui touche désormais 1 enfant sur 100. Marmed Sajidi qui est interviewé par Florence Westgaard.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'autisme, justement ?
L'autisme est un trouble neurodéveloppemental, c'est donc une maladie neurologique qui constitue un handicap cognitif sévère, ce qui génère des troubles de la communication, des troubles de l'interaction sociale et des troubles du comportement.
Et donc, comment détecte-t-on l'autisme ? Comment s'aperçoit-on qu'on a un enfant, justement, autisme ?
Alors, il faut d'abord savoir que l'autisme n'a pas de diagnostic médical actuellement, puisqu'il n'y a pas encore de marqueur biologique. Le diagnostic est clinique, et il est clinique par l'observation des comportements de l'enfant, qu'on sait qu'il a des critères d'autisme ou pas. Ces critères-là sont, par exemple, l'enfant ne regarde pas, ou quand on l'appelle, il ne répond pas, ou souvent répond par des crises, mais il ne s'exprime pas. Un retard de langage et notamment des stéréotypies où il va, par exemple, allumer la lumière à longueur de journée et l'éteindre. Il va s'étaler par terre et regarder, par exemple, les roues des voitures en les tournant du côté de l'œil. Il va se boucher, par exemple, les oreilles. Il pleure sans raison ou il rit sans raison au départ. Mais en tous les cas, souvent à l'âge bébé, déjà avant 3 ans, les mamans sentent tout de suite qu'il n'y a pas d'interaction avec leur bébé, pour certains cas. Et disons que le diagnostic commence déjà à partir de 18 mois, mais au plus tard, à 3 ans, on a tous les critères de l'autisme qui sont apparents.
Quelle est la situation de l'autisme en France ? Est-ce que ce nombre est en augmentation ?
En 10 ans, on a vu les prévalences, d'abord au niveau international, pas qu'en France, passer de 1 sur 1000 à 1 naissance sur 100. Et une dernière étude aux États-Unis qui évaluait un peu les prévalences qui étaient faites en 2007 jusqu'en 2011, il parle déjà de 2 sur 100, vous voyez. Mais c'est une dernière étude qui n'est pas encore validée par d'autres pays. En tous les cas, aujourd'hui, on sait qu'il y a 1 naissance sur 100 partout dans le monde, ce qui fait qu'en France, nous avons 650 000 personnes, c'est l'estimation de l'association sous ces prévalences-là, dont à peu près 180 000 enfants de 0 à 19 ans, et nous avons 8 000 naissances par an.
Et y a-t-il une raison pour laquelle ces enfants sont atteints de l'autisme ? Est-ce qu'on explique ça d'une façon clinique ou autre ?
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau de la recherche internationale, c'est que c'est postnatal ou prénatal. Donc, on n'a pas de marqueur aujourd'hui pour détecter l'autisme de façon médicale. Mais il est sûr que si on donne des moyens à la recherche et on continue à faire évoluer la recherche, on va trouver vraiment les causes de l'autisme, puisque aujourd'hui, on n'en connaît que 10% des causalités. Il nous reste encore 90% à découvrir. Et je pense qu'avec le développement de la recherche, on va pouvoir trouver les causes qui seraient physiologiques et organiques. Rappelons quand même que l'autisme, c'est une maladie qui diffère le monde entier, parce que d'abord, elle est toute récente. Ça fait que 70 ans qu'on a découvert l'autisme, donc il va falloir encore du temps pour découvrir toutes les causes afin de trouver des traitements.
Et justement, où est-ce qu'en est la recherche sur l'autisme ? Est-ce que ça progresse ? Je sais que votre association essaie de dire vaincre l'autisme et autisme zéro, donc où est-ce que c'en est exactement ?
En France, il y a une situation qui est assez particulière. Paradoxalement, à la situation de la prise en charge et l'absence de reconnaissance de l'autisme en France, il y a des chercheurs qui sont très très en avance en matière d'autisme, qui ont des découvertes assez importantes, sont reconnus un peu par le comité scientifique international. Mais au niveau international, pour parler vraiment d'une recherche d'excellence, nous avons quand même pas mal avancé sur ces 5 dernières années. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a à peu près 1000 études par an qui sortent sur des programmes de recherche autour de l'autisme. C'est-à-dire, plus ça va. Tous les ans, on va avoir des découvertes nouvelles où on va apprendre plus sur l'autisme, et notamment au niveau des traitements. Au niveau des thérapies qui sont trouvées aujourd'hui et qui sont encore en test, c'est d'abord la mélatonine qui répond sur les troubles du sommeil. Vous savez, la majorité des enfants autistes ont des troubles assez sévères du sommeil à la petite enfance. Malheureusement, on ne donne pas ces traitements encore aux enfants autistes en France. Nous avons un nouveau traitement qui s'appelle l'ocytocine, qui est encore découvert par des groupes de chercheurs français, qui est en train de se confirmer, je crois, au Japon, qui traite les troubles de l'interaction sociale, encore à confirmer avec des grandes études. Et nous avons le dernier médicament, qui est le Burinex, qui est encore découvert par une équipe française, qui traite les troubles de la concentration. Sachant bien que ces trois médicaments, pour parler de médicaments, n'en répondent que sur trois symptômes. Or, l'autisme est multifactoriel, donc il y a vraiment plusieurs symptômes. Il va falloir aller traiter chaque symptôme, peut-être en particulier. Il est possible que demain, et ça c'est ce que nous sommes convaincus de ça, que si on finance bien la recherche, on va trouver des traitements pour réduire certains symptômes afin de réduire les souffrances des personnes, voire éradiquer certains symptômes de l'autisme. Mais pour le moment, je pense qu'il n'y aura pas un seul traitement pour l'autisme, mais plusieurs.
L'autisme, bien sûr, touche la personne qui est concernée, mais aussi, bien sûr, les familles. Donc, que fait exactement votre association Vaincre l'autisme pour aider, justement, ces familles?
Alors, d'abord, Vaincre l'autisme, c'est d'abord une association de familles. Nous sommes tous les dirigeants de l'association des parents d'enfants autistes. Nous travaillons avec des professionnels, bien sûr, formons des professionnels pour s'occuper des enfants autistes. L'objet principal de l'association, c'est d'abord la défense des droits fondamentaux des enfants et des personnes autistes, et notamment de leurs familles. C'est aussi faire de la protection par rapport au système médical, sanitaire, etc., et les erreurs de diagnostic que peuvent subir certaines personnes. Mais elle ne suffit pas pour elle, si vous voulez, de revendiquer. Elle fait des propositions, elle va jusqu'à les mettre en place en matière de prise en charge pour montrer au pouvoir public qu'est-ce qu'il faut faire pour développer la prise en charge des personnes autistes de façon innovante, notamment sur les techniques et les approches adaptées qu'on a apportées, bien sûr, des États-Unis et de Suède, comme l'analyse appliquée de comportement, le TEACH ou le PECS, qui marche très très bien pour les enfants autistes, mais qui était absolument interdit presque en France. Il a fallu des années pour que notre association fasse intégrer l'ABA en France et la fasse connaître auprès des parents pour que les parents revendiquent cette prise en charge maintenant. Nous avons mis en place des structures innovantes qu'on appelle Future School, dans lesquelles on a expérimenté ces prises en charge innovantes, où chaque enfant, quel que soit son âge, son taux d'invalidité, il est suivi par un programme particulier et dans le milieu ordinaire. Donc il y a des enfants qui vont à l'école, des enfants qui vont travailler, etc. Et ça marche, je dis bien, pour n'importe quel niveau, même les cas les plus sévères. Donc on a fini par faire accepter au pouvoir public le financement de ces structures. Il n'y en a que deux aujourd'hui en France, en expérimentation, pour qu'ils puissent voir sur la partie gestion, économie, etc., que ça fonctionne. Mais il faut quand même rappeler qu'en France, il y a une particularité, c'est que d'abord sous l'égide de la psychiatrie, c'est la seule référence qu'il y a pour l'autisme en matière de médecine, et que cette psychiatrie française est à 99% une psychiatrie psychanalytique. Ce qui fait que l'autisme, les causes de l'autisme étaient plus la maman qu'un problème neurologique ou biologique, voyez-vous. Et donc pendant des décennies, les mamans étaient culpabilisées sur l'autisme de leur enfant, et pendant ce temps-là, on faisait rien comme travail pour les enfants. Il n'y avait que des thérapies plutôt pour les parents que pour l'enfant. On a tous subi ça, si vous voulez, dans le système. Et donc, c'est les associations de familles qui ont bougé pour voir qu'il y a aux États-Unis, en Suède, d'autres prises en charge éducatives qui marchent. Et c'est comme ça qu'on les a intégrées. Donc, notre combat aujourd'hui, c'est que le gouvernement français puisse avancer, prendre des décisions, des politiques véritables de santé publique vers l'autisme, afin de le sortir de cette psychiatrie absolue et qu'on aille vers des disciplines, que ce soit génétique, neurologique, etc., qui fonctionnent avec une médecine basée sur les preuves. Aujourd'hui, en France, dans la majorité des hôpitaux de secteur sanitaire et médico-social, il y a des traitements qui sont complètement inadaptés, voire archaïques, comme le packing, par exemple. On continue à envelopper des enfants autistes nus dans des draps glacés pour enfin, soi-disant, rassembler leur psyché qui éclatait ou les faire renaître, quoi, vous voyez. Et ça, c'est financé par le contribuable dans des hôpitaux. Donc, on milite pour qu'on interdise ce genre de traitement et qu'on intègre des traitements nouveaux. Donc il y a quelques évolutions qui commencent à émerger. Après 10 ans d'action, il y a la Haute Autorité de la Santé qui a fait des recommandations qui enfin reconnaît l'autisme, avec, selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît les évolutions scientifiques et médicales, mais sauf que ça reste des recommandations. Donc il n'y a pas de directive politique pour mettre en application. Et dernier rapport de recommandation sur la prise en charge de l'autisme, où pour nous c'est une évolution, voire une révolution. Maintenant, il va falloir trouver des mesures coercitives pour que ces recommandations soient appliquées au niveau sanitaire, au médico-social. Sur l'éducation nationale ne scolarise pas les enfants, malheureusement. Il y a à peu près 20% des enfants autistes qui sont scolarisés de façon partielle, voire marginale. D'où notre saisine du Conseil de l'Europe avec une association européenne des personnes handicapées pour qu'il y ait une condamnation de l'État français afin de mettre en place une véritable politique de scolarisation des enfants autistes.
Et donc, vous disiez que vous-même, vous êtes parent d'un enfant autiste. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre expérience, quels ont été les challenges et un peu ce que vous avez rencontré comme difficulté?
Alors, au départ, si vous voulez, mon enfant, il était beau, magnifique, hein, comme tous les petits enfants. À partir de 8 mois, il y avait des balancements qui n'étaient pas normaux. Et c'est notre deuxième enfant, donc il y avait sa sœur qui s'appelait Léa. Donc on ne comprenait pas, on parlait au pédiatre, il nous disait qu'il n'y avait rien, qu'on se faisait des idées. Au bout d'un an, il commençait à s'automutiler, donc il se tapait la tête sur le sol, contre les murs, il avait vraiment un œuf sur le front. Et malgré qu'on parle aux médecins, tous nous disent qu'il n'y a rien, qu'il va grandir, qu'il n'y a pas de problème. Il ne parlait pas, plus vraiment hyperactif. Beaucoup de cris, il ne dormait pas le soir, donc les troubles du sommeil étaient vraiment très très graves chez lui, donc il laissait personne dormir. Et jusqu'à l'âge de 2 ans, on a commencé à l'intégrer dans une halte-garderie, où on nous disait que c'était pas possible qu'il puisse rester stable avec les autres enfants. Mais là, la première alerte, elle est venue d'une crèche où sa sœur était là-bas, où on connaissait l'équipe. Et cette crèche nous avait appelé, nous a dit « Votre fils, il est séparé », parce qu'il ne savait pas de quoi il s'agit non plus. Donc il est toujours séparé, il n'arrive pas à manger, il ne sait pas comment manger, etc. Donc ils nous ont envoyés vers une, soi-disant, une équipe thérapeutique. Et là, à partir de là, on est rentré dans un système de psychiatrie française où, je vous disais, comme c'est toujours la mère qu'on culpabilisait, qu'il ne savait pas s'occuper de son enfant, etc. Et c'est vrai que le petit, il était magnifique, donc ça devait être un problème d'éducation pour eux. C'est jusqu'à l'âge de 10 ans. Quand même, l'état de sa mère ne cessait de s'aggraver, pas d'école, pas de prise en charge adaptée, toujours dans une situation où il y a à peu près 7 années noires, hein, vécu vraiment noir avec de l'automutilation, de violence. Et à l'âge de 10 ans, moi, je regardais sur Internet et je suis tombé sur un témoignage de parents canadiens. Ses parents témoignaient de comportements de leur enfant et là j'ai vu mon fils Samy, vraiment c'était ces comportements-là et ces gens-là parlaient d'autisme. Donc vous voyez, à 10 ans, alors qu'il est dans le système sanitaire depuis l'âge de 2 ans. Là ça a été vraiment un coup de colère, j'ai quand même cherché des spécialistes, j'ai pu obtenir un diagnostic au bout de 6 mois, donc à 10 ans et demi. Et à partir de là j'ai compris ce qui se passait en France au niveau de ces blocages de la prise en charge et que tout le monde, les médecins, quand je commençais à leur parler d'autisme, là ils me détestaient, quoi. Fallait pas que j'emploie ce mot-là. Et c'est comme ça que je me suis vraiment interrogé sur cette situation, pourquoi ces gens sont tous résistants. Et d'un autre côté, je n'acceptais pas que mon fils n'apprenne pas à lire et écrire. Le fait qu'il restait bête, c'était pas acceptable. Qu'il soit fou, peu importe, ce qui m'importait, c'est qu'il sache lire et écrire. Et là, toutes les écoles fermaient les portes. Et ça a été un autre coup de colère qui montrait un peu les discriminations qu'il y avait dans les institutions françaises pour un pays de droits de l'homme. Donc c'était encore beaucoup plus révoltant pour moi. Et donc, je me suis mis dans ce travail-là. J'ai créé l'association. À l'époque, elle s'appelait Léa pour Samy. Parce qu'en plus de ça, Samy subissait des maltraitances physiques dans l'hôpital psychiatrique où il était. Et c'est comme ça qu'on a pu le sortir et qu'on a pu, au bout de 2 ans et demi de travail, trouver des professionnels à l'étranger qu'on a ramenés des États-Unis, de Hollande, pour former des équipes ici qui sont occupées de lui. Pendant ce temps-là, si vous voulez, à l'âge de 14 ans, Samy était dans un état extrêmement grave, hein, d'automutilation, de violence contre lui et contre les autres. Et ça nous a pris 4 ans pour réduire tous ces troubles de comportement. Aujourd'hui, à 22 ans, il est autonome, il parle plusieurs langues, il communique avec tout le monde et il est en train de commencer une insertion professionnelle dans le milieu ordinaire.
Ouf, quel parcours. Il n'y a vraiment pas de mots, c'est vraiment une grande bataille pour vous et pour toute personne, je pense, qui ont des enfants avec l'autisme, n'est-ce pas?
Et beaucoup de parents en France, c'est ce qu'ils vivent.
Voilà, et c'est avec Marmed Sajidi, président de l'association Vaincre l'autisme, joint par Florence Westgaard, que se referme ce magazine Escale, un magazine présenté cette semaine par Jérôme Longuet. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.